Nous allons essayer de parler ensemble de ce que c'est que le totalitarisme. Je ne vais pas être trop long, je voudrais essayer de développer essentiellement quelques sujets de réflexion, quelques idées principales, quelques concepts fondamentaux pour comprendre un des phénomènes les plus importants de notre siècle, à savoir l'apparition de régimes politiques dont on peut se demander s'ils ne sont pas des régimes politiques comme on n'en a jamais vu auparavant. Le XXe siècle, on peut considérer, ou plus ou moins c'est l'hypothèse que l'on peut sur laquelle on peut essayer de réfléchir, n'est-ce pas, chacun sait, on a vu apparaître un certain nombre de régimes politiques dont on peut se demander s'ils ne sont pas des régimes d'un type nouveau. Et pour simplifier les choses, disons que, et pour prendre celui qui dure le plus longtemps et qui est peut-être le plus intéressant à bien des égards, nous n'aurons guère le temps de considérer les autres, je prendrai l'exemple du régime communiste. Et si vous voulez, pour simplifier les choses et pour aller vite, on peut considérer qu'en 1993, la réflexion sur le totalitarisme, c'est essentiellement une réflexion sur le communisme, sur sa signification. Et comme vous le savez probablement, comme le communisme semble aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est mort, je crois que la réflexion qui s'impose est de savoir, la réflexion que nous pouvons mener peut nous conduire justement à avoir peut-être une opinion un petit peu différente sur la mort du communisme. Cette réflexion sur le totalitarisme communiste peut nous conduire peut-être à avoir un jugement prospectif, peut-être avoir un jugement qui concerne le devenir du communisme, et par conséquent n'être pas seulement abstrait, mais avoir un côté que je considère comme étant tout à fait concret, tout à fait vivant et tout à fait actuel. Alors, je vais développer brièvement, si vous voulez, en simplifiant un petit peu, je vais développer trois points principaux et puis il y aura quelques réflexions en conclusion. Alors, le premier point, premier sujet de réflexion, le premier point est très simple, il s'agit essentiellement de prendre conscience d'un fait. Enfin, il s'agit essentiellement de prendre conscience de quelque chose qui est d'ailleurs sous nos yeux ou qui devrait être évident, mais qui manifestement ne l'est pas pour tout le monde, d'un fait qui, malgré son caractère massif, n'a pas l'air de s'imposer également à tout le monde. Et le fait est le suivant, c'est ça que je voudrais expliquer. Dans le passé, avant le XXe siècle, ou même plus, si l'on veut, en élargissant un petit peu le débat jusqu'au XVIIIe siècle, au moins en Occident, je ne parle naturellement que de l'Occident, il y a eu des régimes, il a existé des formes de régimes politiques qu'on a toujours classiquement appelées despotiques, appelées tyranniques. Et on a distingué, très classiquement, si vous faites de la philosophie politique, c'est une discipline que je considère évidemment comme fondamental, mais qui n'est peut-être pas très souvent étudié. Si vous faites un peu de philosophie politique, vous apercevez que, très classiquement, on a distingué, en gros, deux genres de tyrannie, deux genres de despotisme, et que la description a en gros toujours été la même depuis Platon jusqu'au XVIIIe siècle ou encore d'ailleurs, c'est une description que certains continuent a donné de ce genre de régime. Ces deux descriptions sont les suivantes. La première consiste à dire une tyrannie, c'est le pouvoir qu'un homme ou que quelques hommes, pas selon que ce soit une tyrannie monocratique ou que ce soit une oligarchie, c'est le pouvoir qu'un homme ou que quelques hommes exercent sur la masse des hommes qui constituent le pays sur lequel ils règnent tyranniquement. Ces hommes règnent la plupart du temps, comme disait le philosophe français Montesquieu, par la crainte, par la terreur, c'est comme il disait le ressort de la tyrannie. Et ils règnent sur leurs sur leurs victimes, sur les autres membres de la même société, par la terreur, pour des buts qui sont de puissance, de gloire, d'intérêt personnel, d'enrichissement, n'est-ce pas ? Tyrannie, ou le caractère illégitime de leur tyrannie, se manifeste par excellence, par le fait que ce gouvernement est orienté à leur propre intérêt. Les tyrans gouvernent pour leur propre bénéfice au détriment de ceux qu'ils gouvernent. Ça, c'est la définition la plus classique. Et pendant 20 siècles, il n'y en a pas d'autre. De 4 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 18, ça fait même 22 siècles, 18 après Jésus-Christ, pendant 22 siècles, tout le monde répète la même chose, de Platon à Saint Thomas, d'Aristote à Montesquieu, c'est toujours la même théorie. Puis alors, on peut ajouter une autre définition qui est un peu plus tardive, qui est apparue au XVIIIe siècle en Amérique. C'est les founding fathers de la Constitution américaine qui ont les premiers pensé à l'idée, puis l'école libérale, l'école de philosophie libérale a ensuite continué sur cette lancée et a défini alors un autre type de majorité, déjà un autre type de tyrannie déjà plus surprenant, quelque chose de plus étrange. De quoi s'agissait-il ? Vous connaissez peut-être l'expression, vous avez peut-être lu un homme qui a rendu cette expression populaire, bien qu'il ne l'ait pas inventée, c'était un Français qui s'appelait Alexis de Tocqueville, qui a écrit sur l'Amérique, mais les gens comme Adams parlaient déjà de tyrannie de la majorité. C'est d'ailleurs une notion applicable, c'est un concept intéressant pour comprendre ce qui peut se passer dans nos sociétés. La tyrannie de la majorité, c'est l'idée que vous avez dans un système démocratique qui est par définition le règne de la majorité, une oppression toujours à craindre des minorités. Et le problème posé par la démocratie dans cette perspective, dans cette philosophie, c'est le problème d'une défense des minorités. Bon, alors ça, c'est une définition un peu plus récente, puisqu'elle a supposé l'apparition précisément d'un régime démocratique, d'un régime de majorité possible, mais c'est une définition que vous trouvez encore couramment utilisée dans l'école libérale. Toute la philosophie politique libérale la plus contemporaine est une philosophie qui souvent se sert de ce concept. Ce que je voudrais dire ce soir, ce dont je voudrais parler, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est quelque chose qui apparaît dans les faits, si on y regarde bien. Merci. C'est un phénomène tout à fait étrange, pas tout à fait remarquable, dont je donnerai deux exemples. Donc je donnerai deux exemples tout à fait vivants. Je lisais dans l'avion qui m'amenait il y a quelques jours, je lisais une interview de Solzhenitsyn qui évoquait encore, il n'y en a pas beaucoup de gens à l'avoir remarqué ce phénomène, à l'avoir noté ce fait, Solzhenitsyn est l'un d'entre eux, et il... Il le mentionnait encore, et il s'étonnait encore dans cette interview il y a quelques jours, publiée dans un journal français il y a quelques jours, il s'étonnait encore précisément de sa persistance, et que c'est un phénomène toujours actuel. Quel est-il, ce phénomène? Eh bien, c'est le... Voyez-vous, si vous regardez... Justement, par, c'est pour ça que j'ai rappelé rapidement les deux premières définitions. Bon, c'est le fait qu'on n'a jamais compris la tyrannie, on n'a jamais défini le despotisme comme, que comme le despotisme d'un seul homme tyrannisant les autres, opprimant les autres, ou le despotisme de quelques hommes, ce qui est une variante de la définition classique, ou encore mieux, pas, l'idée d'une majorité d'hommes opprimant une minorité. Eh bien, il restait une case possible, si vous voulez, dans le tableau de la combinatoire. Il restait à découvrir et à comprendre, et il nous reste, si c'est vrai, à comprendre pourquoi, il restait à découvrir un cas supplémentaire, une figure supplémentaire de cette tyrannie, très paradoxale, étrange au dernier degré. C'est une tyrannie dans laquelle tout le monde serait à la fois tyran et bourreau. Une tyrannie, une société dans laquelle précisément les tyrans, dans laquelle existe une forme de tyrannie ressentie par tout le monde, mais dans laquelle les tyrans sont finalement relativement indéterminables. Une société dans laquelle tout le monde est victime, mais personne ne sait exactement quel est le bourreau. Ou plus exactement, d'une certaine manière, tous sont les tyrans de tous. L'idée vous paraît probablement, c'est une idée assez difficile, elle paraît totalement abstraite. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, j'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène moderne, c'est un phénomène du XXe siècle, oui, parce que précisément, c'est ce à quoi c'est le deuxième exemple, c'est l'exemple précisément des sociétés totalitaires. Mais vous en avez des prodromes. Vous avez un exemple tout à fait étonnant qui a pris place en France il y a deux siècles, pas, et qui est connu et qui est en général admiré sous le nom de Révolution française. Eh bien, ce qui caractérise, voyez-vous, la Révolution française, un des phénomènes les plus étonnants de cette période sanglante, c'est que, tout le monde le sait, pas un certain nombre de, comme on disait à l'époque, le tiers-État, c'est-à-dire ceux qui n'étaient ni nobles ni prêtres, pas, ont pris le pouvoir, pas, ont décidé qu'il fallait secouer la tyrannie des nobles et des prêtres, précisément. Pas. Et les premières victimes de la Révolution française, ou plus ou moins les premiers ennemis désignés par les révolutionnaires, c'était, tout le monde le sait, les nobles et les prêtres. Tout le monde trouve ça d'ailleurs très bien. Pas. On sait que la Révolution française s'est débarrassée des nobles et des prêtres, et puis voilà, on a instauré une société idéale, une société dans laquelle, comme chacun, comme dit le slogan de la République française, tous les hommes étaient libres, égaux et frères. Oui, seulement ce qu'on oublie, ou ce qu'on veut oublier, c'est qu'il n'y a pas seulement eu les proclamations initiales, pas de liberté, d'égalité et de fraternité. Derrière 1789 et cette espèce d'idylle d'ailleurs déjà sanglante, cette idylle qui déjà réclamait le sacrifice d'un certain nombre d'individus, derrière cette idylle il y a eu autre chose. Il y a eu 1793 et puis d'ailleurs entre deux, quelques années qui séparaient 89 de 90. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1793 en particulier? Eh bien c'est qu'on a vu 1. Les révolutionnaires se dévoraient eux-mêmes. Tous ces gens qui se sont mis d'accord sur le dos des nobles et des prêtres, une fois les nobles et les prêtres plus ou moins éliminés, emprisonnés, exilés, massacrés, les massacres ne se sont pas arrêtés. La guillotine a cessé de fonctionner. Est-ce que vous ne savez pas parce que ce sont, enfin, ce qui est très facile de savoir, c'est écrit dans tous les bons livres d'histoire et c'est écrit dans toutes les archives que vous voulez. Mais c'est que le nombre des victimes de la Révolution, le nombre de ceux, la majorité de ceux qui ont été guillotinés, ce ne sont pas naturellement des nobles ni des prêtres. D'abord, il n'y en avait pas assez pour que ça dure tellement de temps. C'est les majorités, mais l'immense majorité, c'est-à-dire de l'ordre de 90% des victimes de la Révolution française, sont des membres du tiers-État. Et des membres du tiers-État, ce sont ceux qui avaient fait la Révolution, qui ont été les premières victimes de la Révolution. Et si vous lisez les archives, si vous regardez les faits, ce qui est extraordinaire, c'est même pas, si vous voulez, on peut même pas dire ceux qui, dans le tiers-État, étaient les plus proches, pas de la noblesse ou de l'État clérical, non. Les guillotinés sont dans une proportion extraordinaire, de l'ordre de 70%. Des balayeurs de rue, des ouvriers journaliers, des prostituées, des petits clercs, le petit peuple, pas des enfants, exécutés de la manière la plus atroce d'ailleurs, des femmes en pagaille qui n'avaient rien de noble. Autrement dit, si vous voulez, le phénomène fondamental, le phénomène du public, le phénomène fondamental, c'est qu'en réalité, les ennemis les plus nombreux de ceux qui ont voulu faire la révolution, c'étaient les révolutionnaires. Ceux qui ont été considérés pas comme les pires des traîtres, c'était ceux qui ont fait la... Il y a très peu d'hommes qui ont commencé la révolution, qui l'ont fini. Parmi, naturellement, les leaders révolutionnaires. Extrêmement peu. Ils se sont tous guillotinés les uns les autres. Et je veux vous donner un exemple tout à fait remarquable de ce phénomène. En 1793, un homme que les Français connaissent bien, un grand homme de la Révolution française qui s'appelle Robespierre, fait passer la loi dite des suspects. La loi des suspects. Les suspects, c'est les suspects d'être contre la Révolution. C'est les suspects d'être anti-révolutionnaires. C'est, comme on disait à l'époque, des gens qui étaient des traîtres à la patrie, des non-patriotes, de mauvais patriotes. Et qui étaient ces suspects? La loi le dit clairement. Le texte le dit clairement. C'est tout le monde. Mis à part, peut-être, Robespierre et deux ou trois de ses amis. Mais Robespierre n'étant, il faut bien le voir, soutenu par la totalité de la population, Robespierre n'ayant pas de pouvoir personnel, Robespierre n'étant là comme la pointe d'une pyramide dont la base, c'est la population. La loi des suspects, elle est votée par la Convention nationale. La loi des suspects, elle fait l'unanimité. Et on voit à ce moment-là la France pourchasser la France. On voit l'individu de dénoncer à tour de bras son voisin d'hier, son ami d'hier, envoyer à la guillotine le marchand, le marchand de bois, l'épicier, pas, qui vit à côté de chez lui. Le phénomène, la terreur, est, comme disait Robespierre, à l'ordre du jour. La terreur doit frapper tous les hommes. Et alors, il y a des discours de Robespierre qui sont extraordinairement philosophiques. Il s'adresse aux députés de la Convention et il leur dit « Vous êtes de mauvais patriotes, il y a en chacun le germe de quelque chose de mauvais. Enfin, il y a, c'est chacun de nous qui peut devenir un mauvais patriote. » Et la France est prise d'une espèce de vent de folie collective. Pas. Les gens s'exécutent les uns les autres, les gens se guillotinent les uns les autres à tour de bras. ça, c'est le phénomène extraordinaire. Il n'y a plus de tyrans et de victimes. Il n'y a plus que des tyrans et il n'y a plus que des victimes. Et ce sont les mêmes. Et ne croyez... Bon, c'est la Révolution française. Mais c'est la Révolution française, mais... Vous êtes menacé, à mon avis, c'est là un phénomène tellement crucial et tellement fondamental que nous sommes à tout instant menacés de voir nos sociétés basculer dans le même genre de situation. C'est la, si vous voulez, la suspicion portée sur le voisin. La France a connu des débuts de renaissance de ce genre d'attitude. Bon, le deuxième exemple plus proche de nous, c'est l'exemple du communisme. Qu'est-ce qu'on voit dans le communisme, me semble-t-il ? Et encore une fois, par exemple, je peux m'abriter derrière le témoignage d'un Solzhenitsyn que je viens de lire, comme je vous l'ai dit, il y a encore 4 ou 5 jours dans l'avion. Qu'est-ce qui se passe dans le communisme ? Eh bien, dit Solzhenitsyn, et ça n'est rien d'autre que cette idée qui me paraît frappante et que je cherche à vous exprimer. Il dit, vous voyez, ce qui est extraordinaire dans la Russie, dans ma Russie, c'est que il faut pas s'imaginer que Staline ou Lénine ou peu importe, le fondateur de la Tchéka ou Brejnev sont les seuls responsables. Il y a en Russie des millions de bourreaux. Il y a des millions de bourreaux et, ajoute-t-il, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Comment vous représentez une société dans laquelle il y a des millions de bourreaux, dans laquelle, à la limite, si vous voulez, en extrapolant pour donner une idée philosophique, précisément, les bourreaux, c'est un peu tout le monde. Un peu, c'est une situation dans laquelle, n'est-ce pas, tout le monde pourchasse tout le monde. Lors des grandes purges, on dit que ce sont des régimes de terreur. Oui, ce sont des régimes de terreur, bien entendu. Seulement, où sont ceux qui font régner la terreur? Mais ils sont partout. La terreur, ce n'est pas la police qui fait la terreur. S'il n'y avait que la police à craindre, il n'y a jamais autant de policiers qu'il y a de citoyens. Le gendarme, il y en a un de temps en temps. La police, on en voit un de temps en temps à la sortie au coin d'une route, sur un carrefour. Mais vous n'avez pas autant de policiers que d'individus. Par conséquent, il faut bien... lorsque la terreur règne et qu'elle dure, que tout le monde s'y mette. Il faut bien arriver à supposer, que vous avez affaire à une terreur dont la plupart des membres de la société sont complices. Tenez, dans son livre célèbre, je vous donne un autre exemple pour ne pas donner les miens, pour vous dire, voilà un homme qui a, dans son livre célèbre sur l'archipel du Goulag, eh bien, Solzhenitsyn vous dit, vous savez, quand dans les bons moments du communisme, quand ça marchait bien, vraiment bien, alors quand on voulait arrêter quelqu'un, quand les autorités, comme ils disent, autorités, on ne sait pas qui c'est, veulent arrêter quelqu'un, eh bien, ils téléphonaient au domicile de celui qu'ils voulaient arrêter. Puis monsieur ou madame ou camarade ou je ne sais pas quoi, ou salopard, peu importe, vous êtes arrêté. Et la victime se présentait pour être arrêtée, mise en prison, éventuellement déportée ou exécutée. Et pourquoi? Eh bien parce que, et ça c'est ce que je dis qu'il dit, et ça me paraît profondément philosophique, pourquoi? Parce qu'il était inutile de fuir. Parce que si on cherchait à s'échapper, eh bien, on avait contre soi non pas le policier qui venait vous chercher, mais tout l'immeuble, tout le quartier, et toute la ville. Solzhenitsyn déclare avoir assisté à des scènes d'arrestation où un seul homme, un seul policier, venait chercher la victime. Alors, arrivée dans la rue, la victime prenait les jambes à son cou et cherchait à se sauver. Elle était rattrapée 50 mètres plus loin par 30 personnes qui se jetaient sur elle, qui l'assommaient pour la livrer aux policiers. Étant entendu, naturellement, que, en principe, l'Occident a toujours dit, mais c'est le règne de l'arbitraire, la population est contre, n'est-ce pas ? Il y a une tyrannie du KGB, il y a une tyrannie du parti sur la masse. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, enfin, c'est la première chose sur laquelle je crois qu'il importe de réfléchir, c'est sur la possibilité, et par conséquent sur les conditions de possibilité, pour qu'il existe des sociétés dans lesquelles la complicité avec la tyrannie soit universelle. Est-ce que nous ne vivons pas, si vous voulez, et là, je vais vite, mais pour vous dire, ce n'est pas une question abstraite, je suis personnellement persuadé que nous sommes, que nos sociétés évoluent lentement vers un état, vers ce genre de situation où effectivement tout le monde devient l'ennemi de tout le monde, et tout le monde devenant l'ennemi de tout le monde a tout intérêt effectivement à abattre son ennemi. Nous vivons dans des sociétés où règne de moins en moins précisément la fraternité et où règne de plus en plus l'hostilité de chacun contre tous. Alors, si vous admettez ce premier point, si vous avez ce point de départ, alors vous comprenez la suite de ce que je vais dire très rapidement. Ça consiste simplement à essayer de comprendre comment cela peut être possible. Quelle est la condition de possibilité de ce genre de phénomène ? Alors, je devrais d'ailleurs normalement, si je voulais vous convaincre un peu plus, multiplier les exemples, multiplier les références historiques. J'en ai donné deux. L'exemple de la Révolution française et l'exemple du communisme. Mais il faudrait que vous... Le phénomène est terrifiant. Le phénomène est répandu. C'est le phénomène central de l'époque. Comment est-ce que cela peut arriver ? Car cela arrive. Car cela est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois et non seulement ça n'a pas cessé, mais à mon avis, ça s'est amplifié. En France, on a eu une espèce d'éclair en 1789 à, pas 93 ou 94 seulement d'ailleurs, de 89 à 1805 et même un peu au-delà, jusqu'au moment où l'Empire remet un petit peu d'ordre, enfin où les esprits essaient de se ressaisir. Et puis en réalité, les guerres napoléoniennes commencent à pomper tant de sang que la guillotine devient un peu inutile et que probablement elles ont loué un large rôle pour éteindre les fureurs de la masse. Mais ce phénomène relativement localisé a pris, comme vous le savez, des dimensions extraordinaires. Quand vous pensez le nombre de millions de morts provoquées par le communisme, bon, comment, quand on vient vous dire, quand la presse, dans la télévision, quand là, des ouvrages sérieux viennent vous dire « C'est un régime épouvantable, les pauvres populations opprimées ne cherchent qu'une chose, ne souhaitent qu'une chose, c'est s'en débarrasser, c'est se libérer. Il importe que ces populations qui souffrent de la tyrannie passent en libèrent. Comment voulez-vous que ce soit... Enfin, comment peut-on penser une pareille bêtise ? Dès l'instant que le nombre de morts dépasse un certain nombre de millions, il est clair qu'il faut bien la complicité de tout le monde. On n'a pas idée d'un régime où tout le monde dit « c'est la tyrannie, c'est épouvantable, nous souffrons, ah !» et où vous avez une poignée d'hommes qui gouvernent. Comment est-il pensable que le KGB et le Parti communiste, c'est-à-dire quelques centaines de milliers d'hommes, gouverne 220 millions d'individus. C'est supposé être hostile. C'est ça le problème. Supposé être hostile, supposé dire nous vivons sous la tyrannie, libérons-nous, libérons-nous. Non. Le phénomène central, c'est qu'ils sont très contents. Les populations, ce qui me paraît le plus frappant, c'est quand on considère l'évolution du communisme, l'histoire du communisme, c'est que les populations soumises au régime communiste sont très contentes d'être communistes. Oh, elles râlent superficiellement sur certains points, on en trouvera toujours, mais massivement, on leur demande de changer, non. Et d'ailleurs, nous y reviendrons en conclusion, hein, je vous signale que c'est toujours le cas. Quand on vient vous raconter que le communisme est mort, ben, il n'y a qu'à regarder les faits. En face, à la moindre élection, les populations votent massivement pour le communisme. Jamais, nulle part, jusqu'à présent, on n'a entendu parler d'une éviction réelle du système communiste. On change peut-être de tête, mais le système demeure. Bon. Enfin bref, laissons ce premier point, passons au second. Alors, deuxième point. Alors, comment c'est possible? Voilà, question. Comment est-ce possible? Alors, hypothèse, vous pouvez avoir les vôtres, moi j'ai la mienne. Je vous donne l'explication, enfin, mon hypothèse, alors qui est, si vous voulez, philosophique. Je veux dire, qui est une théorie de la réalité concrète, une hypothèse d'interprétation de la réalité concrète, est la suivante. Comment, encore une fois, donc, est-il pensable que, d'une certaine manière, tout le monde puisse devenir le bourreau de son voisin en risquant d'être en permanence sa victime? Eh bien, je vais vous donner d'abord le principe abstrait, puis ensuite on va le voir s'appliquer, on va le voir se développer dans les faits. Alors, la formule abstraite, si vous voulez, comme le physicien formule mathématiquement une loi physique. La formule abstraite est la suivante. Il s'agit de raisonner par conditions de possibilité. Enfin, quelles sont les conditions de possibilité d'une pareille fête? Dès que le problème est bien posé, la solution me paraît se dégager assez facilement. Vous vous donnez, une situation dans laquelle, chacun veut être le souverain. Chacun veut être le maître. Chacun veut être le tyran. Et vous vous donnez, deuxièmement, chacun veut être le tyran, une situation dans laquelle les hommes, les individus, chacun veut être un tyran, sont en quelque manière liés ensemble, sont contraints de vivre ensemble. Donnez-vous une situation dans laquelle ces individus qui, si vous voulez, n'ont aucun intérêt particulier pour leurs voisins, ne cherchent qu'une chose, c'est à s'assurer de la domination possible, et donnez-vous une situation dans laquelle ils sont malgré tout contraints de vivre ensemble. Eh bien, troisième et dernière partie de cette solution abstraite, si vous voulez, la situation est, encore une fois, c'est le principe abstrait, c'est le principe général. La situation existe et l'individu existe. C'est ce qu'on appelle la société industrielle. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'une société industrielle? Qu'est-ce que c'est que... c'est une société, en gros, je vais très vite, pour simplifier un petit peu les choses, mais c'est une société qui est manifestement vouée à la production des biens matériels. C'est une société qui est vouée à la multiplication à l'infini, comme disait le pape d'ailleurs Paul VI ou Jean XXIII dans une encyclique, qui trouvait ça très bien, les sociétés modernes sont vouées à la multiplication, sont vouées à la production à l'infini des biens matériels. Elles sont vouées à la jouissance individuelle. Ce qui caractérise ce genre de jouissance, vous le comprenez, ce qui caractérise ce genre de jouissance, c'est qu'elles sont éminemment individuelles. Si vous aimez les ice creams, ce n'est pas parce que vous verrez votre voisin manger de la glace que vous en serez content. Le seul plaisir que vous pouvez tirer de l'ice cream, c'est de le manger vous-même. Et ainsi de suite. Si vous aimez conduire une grosse voiture, comme M. l'abbé Herbach, par exemple, très très vite, avec beaucoup de... Hein, mais il est évident que vous ne tirez aucun plaisir du fait que vous voyez le voisin en conduire une très grosse et sans en avoir une vous-même. Il est évident que la seule intérêt pas de la jouissance, c'est de l'éprouver soi-même. Bon, malheureusement, pour avoir une grosse voiture ou de la glace au chocolat, ben, il faut évidemment faire appel à l'aide, faire appel à la compétence et à l'appui de beaucoup d'autres hommes. Si vous voulez une voiture, il faut qu'il y ait trouvé des électriciens, des soudeurs, ingénieurs, des capitaux, des capitalistes, des vendeurs, des je ne sais pas quoi, bon, etc. Comme disait déjà, d'ailleurs, au XVIIIe siècle, comme disait le célèbre économiste anglais Adam Smith, il trouvait ça admirable, il appelait ça la division du travail, le grand phénomène des sociétés modernes. Pour faire des épingles, c'est l'introduction de son fameux traité sur la richesse des nations. Pour faire des épingles, vous rendez compte du nombre d'hommes qu'il faut mobiliser ? Parce qu'il faut aller creuser dans les mines, chercher du minerai de fer, faut faire du fer, faut fondre le fer, faut faire des moules, faut fondre l'épingle, etc., etc. Enfin, je ne sais plus, enfin, il décrivait par le détail, pardon ? Et il faut, bien sûr, c'est ça, il faut fondre le minerai, faire le fer, etc. Il dit que, alors, je ne sais plus, il y avait quantité d'individus engagés dans la production de cet objet ridicule qui est une épingle. Bon. Eh bien, voilà. Si vous vous donnez une situation... Ça veut dire, en d'autres termes, que plus vous multipliez les jouissances, et plus vous avez besoin des autres. Mais en même temps, ces jouissances... Vous ne les voulez que pour vous-même. Par conséquent, il est bien évident que vous cherchez à extraire le maximum de jouissance des autres, mais évidemment, en tirant sans leur reconnaître ou en ne reconnaissant que contraint et forcé le droit d'en profiter par eux-mêmes. Bon, alors, si vous voulez, vous arrivez ainsi, conclusion, à une situation où l'affirmation, pas de soi, de sa volonté de jouissance, est égale à la négation de la volonté de jouissance de l'autre. Plus, ou si vous préférez, en une formule plus simple encore et plus ramassée, plus vous tenez à vous, plus vous avez de chance de détester le voisin. Et c'est à ce genre de société que l'Occident s'emploie à construire depuis 2 siècles. C'est ce genre de société que l'Occident s'emploie à construire. Alors, bon, je passe à mon troisième point, parce que le second point, c'était, si vous voulez, l'élaboration de la formule abstraite générale. Alors, troisième point. Comment se concrétise-t-elle, cette formule ? Dans quoi est-ce qu'on la voit réalisée ? Eh bien, on va la voir se réaliser, précisément, me semble-t-il, dans de trois manières successives. Hein. On va la voir prendre 3 formes successives. On a commencé à quelle heure ? Moins le quart à peu près. Hein. Bon, c'est ça, je ne veux pas vous lasser, enfin, je ne veux pas... Bon, mais c'est pour calculer à peu près mon temps. On va la voir prendre... Cette formule abstraite va s'incarner dans les faits de 3 manières successives. Les 2 premières vont être, si vous voulez, on va considérer que ben, ce sont des formules viables. Cette formule générale va s'incarner dans des formes de vie sociale qui vont paraître viables. Et puis, peu à peu, on va voir la formule travailler, l'abstrait travailler la réalité, la formule continuer à travailler la société telle qu'elle est, et on va voir éclore une troisième formule de société, pas la forme la plus violente. Si vous voulez, il y a deux formes relativement bénignes, et la troisième, qui est la forme violente, qui est le totalitarisme proprement dit. Alors, quelles sont les deux formes bénignes, pas, ou comment est-ce que... Alors, vous avez... Alors, la première forme, on peut l'appeler, on peut, comme on voudra, parce que c'est à peu près exactement identique. On peut dire que ça, cette première forme, on peut la dénommer de deux manières. C'est la démocratie et c'est l'économie de marché. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est précisément un régime, vous le savez bien, où tout le monde est déclaré explicitement être souverain, puisque le principe de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Mais il est bien évident qu'une société dans laquelle tout le monde veut être souverain à la fois ne peut être qu'une société où chacun se méfie de la souveraineté du voisin. Si vous prenez la souveraineté dans son sens le plus fort et le plus plein, il est évident que la souveraineté de quiconque exclut la souveraineté de ses voisins. Et faire fonctionner un système social sur la base d'une idée aussi absurde, c'est s'exposer évidemment à de grandes déceptions. Et c'est pourquoi la démocratie fonctionne avec les à-coups que l'on connaît et avec la corruption que l'on voit se développer aujourd'hui ouvertement dans la plupart des sociétés occidentales, mais corruption qui n'est jamais que l'effet lointain, mais clair du principe. La corruption, ce n'est jamais que, après tout, tous les avantages pour moi. Les autres, ça m'est complètement égal. Et la démocratie est faite pour ça. J'avais l'occasion de citer l'autre jour le texte de Jean-Jacques Rousseau, un des pères de la démocratie, qui dit « La société est un échange avantageux. Nul n'entre en société, disait-il, que pour son avantage. » Il est évident que si vous avez un avantage souverain, vous excluez l'avantage des autres. La même chose vaudrait, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, la même chose vaudrait, et en réalité, ce n'est jamais que le même phénomène, appelé de deux manières différentes, dans l'économie de marché. L'économie de marché, c'est une économie de souveraineté du consommateur, ou de souveraineté du producteur, c'est une économie de concurrence. Bon, la concurrence, c'est très bien, c'est très efficace, et ça rend de grands services. Mais il ne faut pas se masquer non plus que la concurrence instaure, institutionnalise un régime d'hostilité de l'homme pour l'homme. La concurrence, c'est la concurrence. Quand on est en concurrence, on ne se fait pas de cadeaux. La concurrence, c'est exactement l'échange avantageux dont Rousseau parlait sur le plan politique. C'est le même système qui marche dans les deux. Bon. Alors, ça c'est la première étape. Deuxième étape. Vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe, qu'à regarder ce qui se passe en Occident depuis le XVIIIe siècle. Deuxième étape. Alors, ça a marché un certain temps. On s'est dit, la démocratie, l'économie de marché, c'est tout le contenu du libéralisme. Ben oui, seulement ce qui se passe, c'est que dans le courant du XIXe siècle, on a vu le libéralisme, en dépit de ce qu'on dit aujourd'hui, tous les balivernes sur la renaissance du libéralisme, etc., on a vu le libéralisme se défaire. On a vu le libéralisme acculé à ses propres contradictions et donner le socialisme. On a vu le libéralisme se défaire sous le poids de ses propres contradictions et en particulier, pour ne citer que de manière la plus simple, enfin, une des raisons de décomposition du libéralisme, le libéralisme donne à chacun en principe, la liberté d'agir à sa guise, la liberté d'agir selon son choix, sa souveraineté. Bon, eh bien, lorsque vous donnez cette liberté aux individus, ils commencent par dire très bien, et puis dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils disent, mais puisque je suis libre de le faire, je veux le faire. À ce moment-là, les difficultés commencent, parce que le libéralisme donne bien la possibilité légale et formelle de le faire, mais pas la possibilité matérielle de le faire. Si vous êtes libre de faire quelque chose, il faut évidemment avoir la... C'est très bien qu'on vous reconnaisse le droit, mais si on vous reconnaît ce droit, on doit vous l'assurer d'avoir ce... Et alors, vous voyez naître ainsi tout naturellement, des ruines automatiques du libéralisme naît l'autre forme, et ça, pour aller vite, là encore, enfin, je classifie les choses très rapidement, vous la connaissez tous, c'est le régime sous lequel l'Occident, en gros, vit actuellement. Que le Québec, que la France, le Canada, les États-Unis connaissent indifféremment. C'est grosso modo ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, un régime de social-démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la social-démocratie ? C'est un régime dans lequel un certain nombre d'individus, en général majoritaires, assurent la satisfaction de leurs désirs et de leur souveraineté personnelle sur le dos d'une minorité qui a les moyens d'assurer, qui a les moyens matériels et qui a l'argent pour payer les plaisirs des autres. La social-démocratie est un régime d'exploitation de l'homme par l'homme. Pas simplement les exploités sont minoritaires et les exploiteurs majoritaires. Pas ce qui est contraire à la logique, au discours socialiste classique, au discours marxiste. Bon, et puis alors, arrivons à ce qui nous intéresse ici, le totalitarisme. La social-démocratie, nous la connaissons, vous la voyez fonctionner dans toutes nos sociétés, c'est un régime encore relativement doux. La pénurie s'installe progressivement, le niveau de vie descend, l'exploitation fiscale ne cesse de se développer, mais enfin, les choses se passent à peu près en douceur pendant un certain temps. Et puis alors vient la troisième phase, vient le moment de la violence, vient le moment où les relations entre les individus s'exacerbent, vient le moment où précisément la compétition ou la souveraineté des individus qui n'arrive plus à tirer assez des autres, où la pénurie provoque une égalisation des situations, une égalisation des revendications, une égalisation des souverainetés individuelles, et à ce moment-là apparaît une espèce de climat d'animosité qui est alimenté par le fait que précisément personne n'obtient jamais satisfaction puisqu'il n'y a plus rien à partager. Le communisme, les systèmes totalitaires s'installent le plus facilement dans les sociétés où règne une certaine pénurie. Moins on a à partager, plus la lutte devient évidemment dure. On peut poser les choses de manière très simple en ces termes. Résumer l'évolution en une formule très simple. Moins il y a à partager, plus il est évident que les exigences individuelles sont grandes. Et là encore, je vous cite des histoires tirées, je crois que c'est encore Solzhenitsyn qui doit raconter ça, n'est-ce pas ? Mais il raconte l'histoire où, emprisonné dans le goulag, il assiste à des luttes féroces au couteau pour se partager l'unique pomme de terre qui est servie à 10 personnes. Quand il n'y a plus qu'une pomme de terre pour 10, la compétition devient féroce et on ne craint pas d'essayer de tout simplement d'éliminer par les moyens les plus simples et les plus définitifs les concurrents éventuels au partage de la patate. Vous avez, si vous voulez, le comble, à mon avis, de ce système intervient. Alors pourquoi, si vous voulez, que se passe-t-il ? Alors je voudrais vous donner la formule définitive, la trouvaille définitive de ce genre de régime et la raison pour laquelle finalement il dure tellement. Pourquoi est-ce que cette compétition dure ? Pourquoi est-ce que ce régime, n'est-ce pas, où l'animosité des individus est exacerbée par la pénurie, comme je disais il y a un instant, et où par conséquent, n'est-ce pas, la possibilité de tyrannie réciproque est la plus constante et la plus vive ? Pourquoi est-ce que ça dure ? Eh bien parce que, tout simplement, d'une certaine manière, et c'est ça la géniale invention du communisme, cela dure parce que d'une certaine manière ça satisfait les gens. Pourquoi est-ce que ça les satisfait ? Eh bien en gros, là encore je simplifie beaucoup, je vais à quelques formules, enfin un peu simplifiées, mais qui vous donnent une idée de ce qu'on peut penser, de ce qu'on pourrait développer. Parce que voyez-vous, je vais prendre une image, je vais prendre un exemple imagé. Je reprends l'exemple des voitures. Si vous aimez les voitures, il y a deux situations, deux cas de figure possibles. Tout le monde a une voiture, mais évidemment, il risque d'y avoir des gens qui ont des voitures plus grosses que d'autres. Vous avez des petites voitures qui vont pas très vite, qui sont pas puissantes, puis vous avez des grosses voitures luxueuses avec des sièges en cuir. Bon. Alors, si vous aimez beaucoup, beaucoup les voitures, si votre passion est la passion des voitures, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que c'est une situation un peu pénible ? Vous aimez beaucoup, votre rêve serait d'avoir une Rolls-Royce, n'est-ce pas ? Mais ce rêve est malheureusement hors de portée. Vous n'avez qu'une minable petite voiture américaine, pas de série, mais vous voyez des grosses voitures luxueuses. Alors, à ce moment-là, peut germer une autre attitude, une autre idée peut se faire jour. Et si personne n'a de voiture ? Évidemment, voilà, votre passion de la voiture n'est pas satisfaite. Mais elle est au moins satisfaite en ceci que vous ne voyez personne en possession d'une voiture. C'est-à-dire que vous avez au moins la satisfaction de voir que personne n'a ce que vous n'avez pas. Et mon sentiment est qu'il s'agit là d'une attitude bien humaine, d'une attitude qui peut se développer. En d'autres termes, et pour prendre une formule plus... Enfin, si vous voulez, là aussi, je ramasse les choses. Mais il vient un moment, et à mon avis, c'est ça la trouvaille géniale du communisme. Et c'est pour ça que le communisme, est, à mon avis, n'est naturellement, j'y reviendrai en conclusion, pas mort, mais est bien actif dans nos sociétés. Il vient un moment où l'égalité, ou plutôt l'égalité forcée ou l'égalitarisme tient lieu de richesse. Il suffit que les hommes soient égaux pour qu'ils soient tous riches. Ils ne le sont pas dans les faits, naturellement, mais ils le sont dans la tête. Si vous avez une toute petite maison et qu'il n'y en a pas d'autre autour, vous êtes aussi riche qu'on peut l'être. Si tout le monde a la même chose, personne n'est pauvre. Si personne n'a rien, personne n'est pauvre, tout le monde est riche. L'essentiel est que ce soit la même chose pour tout le monde. Et à mon avis, vous voyez se développer depuis 2 siècles une passion de l'égalité haineuse, tatillonne, pointilleuse, constante. La haine des talents, la haine des vertus, la haine des différences, la haine de tous ceux qui peuvent avoir quelque chose, une qualité que les autres n'ont pas, qui est bien la preuve que s'installe une mentalité qui est l'essence de la mentalité totalitaire et qui a fait le nerf des régimes totalitaires que ce siècle a connus et qui est bien loin d'être morte. Alors, bon, j'ai sauté beaucoup de choses, je ne veux pas accaparer la parole. Alors, je voudrais conclure par quelques réflexions très rapides. Vous me poserez des questions, j'avais beaucoup plus de choses à dire, mais enfin, ce n'est pas la peine de passer trop de temps. Bon, on va... Alors, mettons, si vous voulez, trois conclusions. Première conclusion, le totalitarisme est-il mort ? Vous l'avez deviné. Bien entendu, j'ai commencé à le dire, à mes yeux, non. Bien entendu, non. Le totalitarisme n'est pas, d'abord et avant tout, un système institutionnel, n'est pas une structure politique. C'est une mentalité. C'est un type d'homme. Le communiste, ce n'est pas le membre du Parti communiste. C'est une certaine forme d'esprit. Et cette forme d'esprit, à mon avis, on la voit se développer sans cesse. Deuxième point. Alors, on m'a souvent fait des objections, me dire, mais regardez ce qui se passait en Union soviétique, par exemple, admettons que vous ayez raison, mais c'est pas vrai, c'était pas une société égalitaire. Une des objections, enfin, je prononce celle-là, si vous voulez, mais c'était pas une société égalitaire. Il y avait des apparatchiks communistes, il y avait du parti, n'est-ce pas, et puis il y avait les misérables que crevant de faim. Tout le monde connaît la datcha de M. Brejnev, n'est-ce pas, ou la datcha de pourrait, enfin de n'importe quel dirigeant, et même de Gorbatchev, qui en a encore une maintenant, ou n'importe quoi. Bon. Eh bien, je vous répondrai simplement la chose suivante, et je, comme j'ai coutume de le dire, il faut tout à fait distinguer entre la haine du privilège et la haine du privilégié. Je veux dire, c'est une, on peut parfaitement, toutes les sociétés égalitaires, et la France en sait quelque chose, on a connu des égalitarismes, toutes les sociétés égalitaires sont en réalité, et d'ailleurs de manière très logique et par définition, des sociétés de privilèges. Parce que précisément, ce sont des sociétés où chacun ne regarde qu'à soi, l'égalité étant fondée sur d'abord le primat de l'individu, et où par conséquent, n'est-ce pas, où par conséquent, en réalité, chacun cherche à s'approprier le maximum, fût-ce en cachette. Tout le monde cherche le privilège. C'est exact, toutes les sociétés égalitaires sont des sociétés où tout le monde est en quelque manière privilégié. C'est exactement l'inverse de ce qu'on dit. Et le privilège, il est de 36 formes. Il est de connaître, par exemple, le fils ou la fille du boulanger ou de l'épicier qui peut vous garder jusqu'à demain matin deux tomates ou deux pommes de terre. C'est déjà un privilège que n'a pas le voisin qui ne connaît pas, lui, le fils ou la fille du boulanger ou de l'épicier. Mais tout le monde cherche les privilèges. Mais naturellement, on est les privilégiés. Le grand problème, la haine que pouvait susciter le KGB ou le Parti communiste, c'était pas une haine dirigée contre l'existence du Parti communiste ou du KGB. C'était le fait que une haine dirigée contre ceux qui étaient effectivement en place dans le KGB et dans le Parti communiste. C'est moi qui aurais dû y être, pas vous. C'était ça le raisonnement. Et ça, c'est un raisonnement que j'ai vu à l'œuvre personnellement. L'ambition étant d'être à la place de celui qui, précisément, dans l'immédiat, occupe celle que vous pensez devoir occuper. Bon, troisième et dernière conclusion, je m'arrêterai là. Alors vous allez me dire, mais quel est le remède? Y a-t-il une manière de lutter? Est-ce qu'il y a une... Eh bien oui, mais le remède, on le connaît bien. Toute la philosophie politique classique, traditionnelle, j'ose le dire, même si nous avons quelques petites différences sur la question, avec des nuances variées et même des nuances souvent considérables, mais sous l'angle qui m'intéresse, l'intuition demeure la même. La philosophie politique le répète d'une voix à peu près unanime depuis Platon jusqu'au XVIIIe siècle. Et elle ne cesse de le faire. Après le XVIIIe siècle d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une pensée toujours vivante. Quelle est la réponse? Eh bien, c'est précisément, la réponse, c'est que la philosophie politique a toujours, et les philosophes classiques, ont toujours bâti leur doctrine, élaboré leur doctrine, sur la base d'une seule et unique conviction, qui est que l'homme ne pouvait pas se prendre sans provoquer des catastrophes pour lui d'abord, que l'homme ne pouvait pas se prendre pour le centre du monde. Là, si vous voulez, pour dire les choses très, très simplement, de manière accessible, très rapidement, le principe premier de l'enseignement, le premier enseignement de la philosophie classique pendant des siècles et des siècles, ça a été l'humilité. Et c'est pourquoi la doctrine chrétienne et catholique a joué un rôle décisif dans la maturation de cette idée, puisque précisément, d'une certaine manière, elle a pour un de ses noyaux, un de ses ressorts essentiels, et l'affirmation, précisément, que l'homme n'est pas un animal qui se suffit à lui-même, qu'il a besoin d'une aide étrangère, autrement dit, si vous voulez, d'une certaine manière, la définition la plus simple qu'on puisse donner du totalitarisme, c'est la définition suivante, est totalitaire une toute société qui entend se passer de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce que vous avez des éclaircissements à demander sur tel ou tel point?
Oui, il y en aurait un, je pense.
Je vous en prie, oui, bien sûr.
Et dans la pensée de tout le monde aujourd'hui, face au développement totalitarisme,
oui.
Où
nous en sommes dans le développement. Oui, mais c'est une bonne question. Où nous en sommes. Je crains que nous ne soyons déjà fort loin. Parce que je pense à la France, hein, ce qui est que je vois vivre constamment et que je surveille de ce point de vue-là. On voit très très clairement monter, si vous voulez, une mentalité de... ce que j'appellerais une hargne. On voit monter la hargne des revendications. On voit monter le mépris des autres. Tenez, c'est une autre formule que j'aurais pu aussi bien utiliser. Mais ça c'est sensible, ça se voit. Et je pense que ce mépris atteint des degrés tels que, à mon avis, nous sommes déjà entrés dans une, au moins pour la France, dans un régime de, qui serait presque presque totalitaire. Vous n'imaginez pas le nombre de restrictions qui sont d'ores et déjà apportées précisément aux libertés individuelles, qui sont en principe, n'est-ce pas, le but recherché. Dans tous les domaines, constamment, je me sens de plus en plus emprisonné par un réseau de petites, vous savez, comme Gulliver, par des petites ficelles. Il n'y a pas de grosses cordes. Bon, mais il y a un nombre innombrable de petites ficelles qui concernent la vitesse sur les routes qui va de détails les plus infimes, n'est-ce pas, jusqu'aux contraintes professionnelles, qui encore une fois ne sont pas mises sur le papier. Mais par exemple, je ressens vivement l'impossibilité de traiter clairement, distinctement et ouvertement de certains sujets dans les universités. Il y a des sujets que on ne peut plus traiter sous peine, alors là c'est déjà très net, sous peine de prison. Alors, on ne peut pas les mentionner puisque c'est les... Je me garderai de les mentionner, je suis désolé, mais je suis entré dans une période presque paranoïaque, peut-être, je ne sais pas. Pardon ?
Je ne dirai pas.
Mais on est entré dans une période... personne ne cherche plus, ça me paraît aussi très caractéristique, vous savez. Personne ne cherche plus en réalité. Et là, de ce point de vue-là, l'Église mène exactement le même combat et connaît les mêmes difficultés que le laïc, ou que le prêtre, que le philosophe. C'est exactement, moi ça me le va. Personne ne cherche plus à réformer. Le nombre, regardez, combien êtes-vous ce soir? Les gens ne veulent plus réfléchir, ne veulent plus croire en quelque chose, ne veulent plus se mettre en question. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi il n'y a personne? Parce que ça peut déranger. Parce que ça dérange. Et on ne veut pas être dérangé. Mais ça, c'est exactement comme ça que s'instaurent les sociétés totalitaires. Personne ne veut plus être dérangé. Et tout le monde est prêt à avaliser n'importe quoi. Toutes les combines possibles. Je suis très, très, très pessimiste. Eh bien, alors là, personnellement, alors c'est une discussion, si vous voulez, de quant au fait, d'une certaine manière, je suis entièrement d'accord, c'est ce que vous avez très bien, enfin, c'est compris, vous êtes d'accord, je ne sais pas, vous l'avez par vous-même, en fait, c'est exactement ce que je veux dire. Mais personnellement, c'est ce que je vois. Je vois un retour, et j'avais l'occasion de le dire, mais je le dis partout où je passe, j'étais en Amérique il y a quelque temps, mais ça laisse les gens absolument de glace. Et je leur dis, écoutez, regardez les faits. Mais simplement des faits, des petits faits ou des grands faits, mais des faits, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à tout le monde. Tenez, j'ai l'occasion de... Alors, il y en a plein, mais prenons-en un massif, par exemple. Le goulag. Alors, c'est connu, enfin bon, Solzhenitsyn a fait sa gloire là-dessus, il dénonce le goulag. Bon. Alors, on renverse le communisme. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le goulag. Et on voit se déverser ces malheureux... exsangues, avec la peau sur les os, qui viennent dire, voilà ce que nous avons souffert, voilà ce qu'était le communisme, toi, enfin nous sommes libres, mais nous sommes là pour témoigner, enfin bon, quand les camps de concentration allemands ont été ouverts, Dieu sait qu'on a vu, on a vu des victimes se présenter pour témoigner de la barbarie, etc. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu parler, vous, d'un seul prisonnier libéré? Vous avez entendu parler d'un seul camp du goulag ouvert? Un seul? Moi, jamais. Jamais. Et il y en a... J'ai vu des cartes dressées de l'Union soviétique, très précises, avec des petits points noirs pour désigner les camps. Et il y a des parties qui sont quasiment noires. D'autres, c'est un peu plus épars, c'est un grand pays. Mais il y en a partout. Il y en a partout. J'ai vu des cartes des camps du goulag, de l'Union soviétique, qui étaient parsemées. Il y en a des centaines. Alors, ils sont devenus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne tient pas debout. Bon. Vous citiez tout à l'heure un petit fait tout à fait... il semble que le dirigeant actuel de l'Union soviétique, Boris Eltsine, soit l'homme qui ait été chargé en 88 de faire disparaître toutes les traces de l'assassinat de la famille du tsar à Ekaterinbourg, de manière à gommer le fait de l'histoire. Bon. Alors, il peut s'agir certes d'une conversion, mais une conversion à quoi? Une conversion à quoi? J'ai écrit un long papier, mais qui a paru dans une langue intéressante, mais peu pratiquée, en néerlandais, sur la question. Je raisonnais, j'ai essayé de... À quoi voulez-vous qu'ils se convertissent, ces gens? Jamais, il y a une chose qui est certaine en moi, jamais ils ne reviendront au libéralisme. Parce que le libéralisme engendre le socialisme, c'est aussi simple que ça. Revenir au libéralisme, c'est revenir au socialisme. Ça, c'est, ils n'en veulent pas. Bon. Se convertir à quoi? Alors, il n'y a rien d'autre remède. Alors, c'est que tout d'un coup, ils aient la foi. Ils trouvent la foi. Comme je viens de le dire, bon, s'il y a en effet une attitude qui soit contraire à l'attitude totalitaire, c'est l'attitude religieuse. Bon. Admettons même que l'orthodoxie soit de nature à provoquer une réaction. J'en suis pas sûr, mais enfin, bon, admettons. Mais j'aimerais autre fait. J'aimerais entendre parler d'église envahi par une foule exigeante, pas de voilà, se précipiter sur les pauvres, pas y aller réclamer enfin quelques spiritualités. La spiritualité? Vous avez déjà entendu parler, d'une multiplication enfin des services religieux de quelque nature que ce soit en Union soviétique? Moi pas, jamais. Sans parler alors de faits beaucoup plus massifs, c'est même paru dans la presse française. Vous parlez, ça, pour que ça apparaisse dans la presse française, il fallait vraiment que ce soit un fait. Les Russes continuent à sortir 2 sous-marins nucléaires par an. Et ce sont des sous-marins les plus perfectionnés que le monde possède actuellement. Ce sont des trucs qui font 30 000 tonnes et qui plongent à 800 mètres de profondeur approximativement. Ils sont invulnérables, indétectables, les Allemands et les Japonais leur ont vendu des hélices qui sont silencieuses, et ils continuent imperturbablement à produire. Imperturbablement. On flanque à la casse du matériel usagé, pas dont personne ne veut, mais le fer de lance, il est toujours là. Est-ce qu'on a entendu parler, enfin, je sais bien, alors là, on parle très souvent d'une espèce de mise au rebut de certaines fusées soviétiques, mais quand vous regardez les choses d'un peu près, les seules fusées soviétiques sont mises au rebut, sont un truc qui, de toute manière, est tout à fait dépassé et sans aucun intérêt. Ils vendent des régiments entiers de tanks, simplement ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils mettent au point un nouveau modèle de char un peu plus effrayé tous les 2 ans. Alors ils peuvent parfaitement flanquer au rebut les T-62, qui sont complètement... ils n'ont plus d'intérêt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous multipliez les faits comme ça, enfin ça n'arrête pas. Dès que vous y réfléchissez une seconde, vous voyez se développer des phénomènes à la fois ponctuels ou des phénomènes massifs. Le communisme s'est réinstallé en Lituanie, démocratiquement. Pardon ? Ils sont toujours imperturbablement communistes. Ils ont flanqué à la porte, etc. Il y avait en Géorgie un leader nationaliste, authentiquement nationaliste apparemment, pas. Qui s'appelait Gamsakhourdia, je crois, si je me souviens bien. Hein ? Zia, vous connaissez Gamsakhourdia. Bon. Lui était, semble-t-il, effectivement, voulait changer un peu la réunion, etc. Ça n'a pas pris longtemps, en l'espace d'un mois, c'était un fasciste notoire, un tyran, pas, qu'il a fallu faire déguerpir, enfin, parce qu'il menaçait enfin, la liberté des concitoyens, et on a installé qui ? Chevernadze, apparatchik du Parti communiste. Bon, alors vous allez me dire, il y a des troubles, oui, il y a des troubles, mais les troubles, quels sont ces troubles ? Autre fait, là, je vous cite ça, autre fait. Il y a des troubles, ouais, bon. Alors, il y a les fameux Abkhazes, où l'Abkhazie est en lutte contre, les Géorgiens, l'Arménie, où les Arméniens se démolissent, bon, très bien. Vous avez jamais entendu parler d'une tentative quelconque ou d'une entreprise quelconque de lutte armée contre l'armée rouge, contre les Russes? Moi pas. Jamais. Les Russes interviennent pour séparer les combattants. On fait appel aux Russes pour se protéger contre X. Et comme ils font d'habitude, tantôt ils font porter leur effort, tantôt là, hein, bon, et puis c'est... Mais les Russes, jamais. Ah, il est certain. Il est certain que le...
La remise.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pensez? C'est les décisions de 1931.
Oui. Je vous dirais deux choses. Un, il est tout à fait évident, c'est l'évidence la plus élémentaire, que le communisme soviétique, russe, bon, a été, depuis le départ et même déjà avant, alimenté, soutenu, protégé par le capitalisme américain. Ça, c'est un fait historique que personne ne peut contester. Il a été un tuyau d'alimentation permanent. Et l'idée du gouvernement mondial avec deux pôles, etc., ça je connais très très bien toute cette... je connais très bien. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. Et c'est probablement un sujet d'autant plus actuel et brûlant et qu'il est parfaitement actif et que c'est une entreprise de très longue haleine. Ça remonte très loin et ça n'est pas prêt de se terminer. Mais ma deuxième remarque, c'est que, si vous voulez, je tends à privilégier des explications philosophiques. Je veux dire par là que ce qui m'intéresse, c'est la logique des choses. C'est pas seulement... Je ne crois pas du tout, enfin, autant je crois à ce que vous voulez dire, autant je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer la capacité d'action, pas de certains hommes. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a quelques banquiers sont capables de tirer les ficelles du monde entier. Et ils ne le font que parce qu'il y a des phénomènes, si vous voulez, de fond, parce qu'il y a des phénomènes massifs qui se développent et qui sont accessibles au regard philosophique. Je veux dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est la diffusion de la mentalité totalitaire, parce que c'est sur la possibilité de cette diffusion que s'appuie l'action de certains hommes. Sans l'existence d'une mentalité diffuse, l'action de certains hommes n'est pas possible. Elle n'est possible que moyennant. Alors il faut voir les deux bouts, si vous voulez. Je suis tout à fait prêt à voir l'action de certains hommes à condition qu'on voit les phénomènes philosophiques. Ce que j'appelle les phénomènes philosophiques. Et à mon avis, ça a toujours été comme ça. Enfin, jamais Robespierre, Danton ou que je ne sais quel autre leader de la Révolution française n'aurait réussi s'il n'y avait pas un nouvel homme qui avait surgi. Enfin, jamais ça n'aurait été possible si ce n'était pas, au fond, la masse qui parlait. Bien sûr. Ah, mais ça... Je suis loin de le nier. L'histoire de la monnaie unique européenne m'intrigue énormément. Et je pense que c'est une opération qui profite beaucoup plus à certains individus qu'à la masse, bien entendu. Oh, mais ça me paraît tout à fait vrai, tout à fait vrai. Encore une fois, si vous voulez, je pense qu'il s'agit de l'action, d'une action qui s'appuie momentanément d'ailleurs, parce que je crois que le calcul de ces gens est erroné à long terme. Je crois qu'ils vont être, ils seront, si j'ai raison, ils seront balayés. Mais à court terme, un banquier ne voit jamais qu'à court terme, vous savez. Un banquier ne se... 6 mois, c'est, oh là là, c'est un long terme. Hein. L'argent, il se gagne au jour le jour. Hein. Ce n'est pas une opération mirifique à 3 ans, ou à 6 ans, ou à 10 ans, ça, ce ne... Bon. Alors, sur le court terme, on joue sur ce qui existe. Pas... Il y a un certain aveuglement de la part de ces gens. Enfin, ils manipulent un explosif qui risque fort de leur partir dans les doigts un jour ou l'autre. Mais enfin, ça c'est une autre histoire.
Oui,
exactement. Sans aucun... Ben, j'aurais tendance à vous répondre, là aussi, je vous réponds très rapidement, enfin, vous posez là un grand problème, mais qui est un problème aussi historique, si vous voulez, pas seulement. J'aurais tendance à vous dire que la franc-maçonnerie me paraît personnellement, parce que j'en connais, ou parce que, enfin, à travers des réflexions que j'ai pu mener sur ce sujet, me paraît personnellement moins, si vous voulez, directement, favoriser directement le développement du communisme, qu'abattre les barrières contre le communisme. La franc-maçonnerie s'en prend plus à ceux qui pourraient faire obstacle au communisme qu'en réalité elle n'est directement un agent de communisme. Elle le favorise mais indirectement. Pour autant que je sache, je ne pense pas que les francs-maçons soient directement pas communistes. Ils le sont très rarement, à nos connaissances. Ils sont volontiers socialisants. Bon, ça, c'est une chose. Mais communistes, à ma connaissance, non. Mais ils œuvrent quand même dans ce sens-là parce qu'ils font sauter les barrages. Et notamment, précisément, le barrage religieux, qui est évidemment un des barrages essentiels. Peut-être, ouais, ce qui se passe dans une société communiste, là aussi je suis passé très vite, si vous voulez, ce qui se passe dans une société communiste, c'est que, comme tous les individus sont en compétition les uns contre les autres, il est évident que laisser à leur seule force, si vous avez une casserole qui boue avec les molécules qui sont toutes identiques les unes aux autres, aucune n'a une chance de remporter un avantage particulier. Donc, le premier, si vous voulez, la première loi des sociétés d'égalité apparente, naturellement, qui est une égalité fondée sur la concurrence, c'est la combine. Je veux dire, le phénomène central du communisme, c'est le marché noir. Enfin, c'est la corruption, si vous préférez. Autrement dit, tous les systèmes communistes sont des systèmes de mafia. Seulement, il y en a beaucoup, enfin, et puis elles sont en permanence en train de bouger, de changer, on trahit pour gagner là, on vend les copains, et puis on s'allie à une autre bande, enfin, etc. Donc c'est une espèce de mouvement perpétuel où tout le monde est en permanence inquiet de sa propre destinée, mais en même temps cherche à l'assurer au détriment des autres. Alors, j'aurais plutôt à dire que je ne m'intéresse pas beaucoup aux Nations Unies, ça ne me paraît pas un organisme très intéressant. Je pense qu'il a des... Je sais pas, j'aurais plutôt tendance, moi, en ce qui me concerne... Enfin, je ne le mettrais pas en relation directe avec le communisme. C'est un peu une société de pensée, hein, les Nations Unies. Mais en fait, ça nous entraînait encore dans un autre sujet. Enfin, société de pensée au sens technique, au sens de Cochin, par exemple, que vous connaissez peut-être. Oui ? Ben, c'est ce que j'ai essayé de décrire très rapidement, si vous voulez... j'ai essayé de montrer comment, enfin j'ai dit rapidement, j'ai pas montré, mais j'ai dit rapidement comment le libéralisme, au fond, si vous voulez une formule très simple, enfin en allant vite, le libéralisme donne beaucoup d'espoir, enfin, ou donne l'espoir de l'égalité, donne l'espoir de la richesse et de l'égalité à tout le monde. Et le libéralisme ne la satisfait pas. Ah oui, c'est le responsable direct, c'est le premier responsable du développement du communisme, sans aucun doute. Et en particulier d'ailleurs, comme je l'ai montré tout à l'heure, enfin je l'ai dit tout à l'heure en passant aussi, les passions se multiplient, s'exacerbent avec le degré de matérialisme. Or la première philosophie matérialiste dans l'Occident moderne, c'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est intrinsèquement matérialiste. Enfin, c'est le premier matérialisme. Quel a été le premier produit du libéralisme ? L'économie politique. La science de la production des richesses. Et ça, c'est l'alpha et l'oméga du libéralisme. Alors ça a engendré naturellement, il y a le libéralisme, si vous voulez, religieux, il y a le libéralisme intellectuel, mais qui n'est jamais que la conséquence, précisément, d'une indifférence radicale. Enfin, aux problèmes moraux, intellectuels, spirituels, religieux, etc. En fait, la seule chose qui compte, c'est la jouissance matérielle. Et par conséquent, la liberté de jouissance. C'est de là que partout.
Et donc, on voit toutes les lois qui favorisent.
Voilà. Je crois, heureux, enfin, c'est une. C'est, je ne pense pas qu'il soit. Enfin, bonheur, c'est beaucoup de choses. À coup sûr, ils n'ont pas la paix de l'âme, si vous voulez. Ça, sûrement pas. Mais non seulement, ils n'ont pas d'âme, alors ça ne les gêne pas beaucoup. Ont-ils le bonheur au sens de la jouissance matérielle élémentaire? Sûrement pas non plus. Mais ils ont le bonheur si vous voulez, ils ont le bonheur... Pour dire les choses très simplement et rapidement, ils ont ce bonheur certain que procure à l'envieux ou que procure à la haine, à celui qui est son voisin, le spectacle des malheurs de l'autre. Il y a des tas de gens qui éprouvent un bonheur considérable à contempler le malheur des autres, surtout s'ils en sont responsables. Ça, c'est le nouveau type d'homme. La société traditionnelle, qui comporte un certain nombre de caractères tout à fait que l'on peut décrire. J'avais l'occasion de parler il n'y a pas longtemps. Un des caractères qui me paraît fondamentaux d'une société non communiste, et ce n'est pas d'ailleurs, Marx l'avait parfaitement dit, c'est même pas. C'est le caractère d'une société rurale qui vit selon un mode traditionnel rural. Ne peut pas devenir communiste, et c'est ce que Marx avait dit. D'ailleurs, le premier moyen de réaliser une société communiste, c'est de réaliser la ruine de l'agriculture. La ruine de l'agriculture en Union soviétique, c'est un phénomène métaphysique. Hein. Ce n'est pas une lubie de Staline, c'est une nécessité logique. Il faut ruiner tout ce qui peut rester d'un mode de vie qui est fondamentalement étranger et incompatible avec le mode de vie communiste. Mais c'est un trait parmi beaucoup d'autres.
On a connu, il y a 45 ans, quand les gouvernements ont porté cette idée, chaque famille, ça répond. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, on perdait le contrôle des masses. Plus il y en avait, il y avait leur...
Ah oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Il faut...
Alors, ce qu'on appelle, nous autres, le bungalow.
Oui, il faut concentrer, bien sûr.
Alors,